est une rediffusion.
Les Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Dans ma vie, je n'ai pas choisi de faire de la politique. J'ai choisi le métier des armes.
Rien ne prédisposait ce fils de paysan d'origine modeste sans grand bagage intellectuel à conduire comme on mène une armée le Togo pendant près de 40 ans. Rien au départ ne laissait imaginer que ce grand gaillard avec son physique de lutteur traditionnel, auteur du premier putsch en Afrique francophone dès 1963, lierait aussi longtemps son nom à celui de son pays, devenant au passage l'un des grands médiateurs du continent. Suite de notre série consacrée à Gnassingbé Eyadema, qui en 1963, après avoir perpétré un coup d'État contre le président Sylvanus Olympio et cédé avec ses camarades mutins, anciens de l'armée française, que le chef de l'État refusait d'intégrer dans les forces nationales, a transmis le pouvoir à Nicolas Gruninski, l'ancien premier ministre que l'on a fait venir du Dahomey voisin où il vivait en exil. Après les condamnations de nombreuses nations qui dénoncent ce coup de force, le Togo va parvenir au bout de 2 ans à retrouver sa place au sein des nations.
À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul État africain indépendant qui n'ait reconnu notre gouvernement démocratiquement issu de la volonté du peuple. De même, tous les États extra-africains avec lesquels le Togo entretenait des rapports ont également tous reconnu la légalité et la légitimité du pouvoir exercé par notre gouvernement. Plus aucun pays du monde le boude, c'est désormais le Togo.
Si les choses s'arrangent pour le jeune État et pour le gouvernement sorti du putsch qui s'est légitimé par des élections législatives, pour le jeune Étienne Eyadema, elles vont encore mieux. En 1966, il a gravi quasiment toutes les marches dans la jeune armée togolaise dont il est désormais le chef d'État-major. Lieutenant-colonel, c'est son grade. À la tête de l'État, par contre, les choses semblent moins fonctionner. La diarchie au sommet censée résoudre les questions tribales entre le Nord et le Sud semble montrer ses limites. Entre le président Nicolas Gruninski et son vice-président Antoine Meachi, ce n'est pas la grande cordialité. Le second lorgne de plus en plus sur le fauteuil du premier. En confiant respectivement la fonction de président et de vice-président à un sudiste et à un nordiste, l'armée et les constituants croyaient avoir trouvé la solution au conflit tribaux. Pourtant, ce bicéphalisme va être une source de problèmes. En effet, Antoine Meachi veut devenir calife à la place du calife. Le poste de vice-président ne lui sied plus du tout. Alors c'est l'opposition entre les deux chefs de l'exécutif. Voici la réponse que nous donnait le président Eyadema à la question de savoir ce qui opposait réellement tant les deux hommes, Nicolas Gruninski et Antoine Meachi.
Le président Gruninski, c'est un homme que le peuple aimait. Il a été élu le 5 mai 1963, au suffrage universel, en même temps que son vice-président Meachi. Le peuple lui a confié le mandat de 5 ans. Mais l'autre, le vice-président Meachi, voulait renverser le président de la République. Et moi-même, avec un certain nombre d'officiers, nous sommes intervenus auprès de M. Antoine Meachi en lui disant, chacun a son rôle. Le peuple s'est prononcé. Le président Gruninski est président. Il a son rôle. Vous, vous êtes, n'est-ce pas, vice-président. Vous avez le vôtre. Donc, il faut le servir loyalement. Jouer votre rôle, n'est pas essayer de le renverser. Personne ne sera d'accord avec vous. Mais il voulait absolument un coup de force. Vous savez, on dit souvent que celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Bon, donc, quand l'opposition a vu que le vice-président était avide de pouvoir, ils l'ont trompé. Ils sont partis le voir en disant, non, si c'est toi qui étais notre président, nous devons, n'est-ce pas, vous suivre. Mais, parce que le président Gruninski, nous ne voulons pas de lui parce qu'il est citoyen français. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. Toi, tu es un fils authentique. Nous allons, n'est-ce pas, vous suivre. Eh bien, il a accepté, comme il ne voulait que ça. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Donc l'opposition a passé par Miyachi, qui était considéré comme le traître de Grinsky. L'opposition, n'est-ce pas, s'est mise à l'œuvre pour travailler activement pour renverser Grinsky en passant par Miyachi, avec Miyachi. Miyachi, lui, croyait que l'opposition était sincère pour le soutenir au pouvoir, mais c'était pour le tromper seulement. Bon. Et de temps en temps, l'opposition envoyait, ils avaient leur état-major général à part, que Miyachi n'avait pas l'accès. Et de temps en temps, ils envoyaient, n'est-ce pas, des personnes pour voir Miyachi en disant le président, nous sommes venus recevoir des instructions. Lui, il a cru qu'effectivement, les gens, n'est-ce pas, voulaient que ce soit lui qui remplace M. Nicolas Grinsky. Hélas, il le trompait. Moi-même, je suis allé. Sa femme est encore là. Il est mort. Je lui dis que non. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer une guerre civile dans ce pays. Donc, il faut absolument rester, n'est-ce pas, dans la ligne que le peuple vous a tracée avec le président Grinsky jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, si vous voulez le pouvoir, présentez-vous comme candidat à la présidence. Mais actuellement, ce que vous êtes en train de faire, vous risquez, n'est-ce pas, de créer une guerre civile. Mais j'ai exigé à ce que Mme Miyachi soit présente. Quand j'ai fini, il m'a dit tout simplement, je vous ai attendu, je vous remercie. Et j'attendais que Mme, sa femme dise mot, rien. Bon, Miyachi a commencé à travailler avec l'opposition.
Monsieur Haïté Mivedor, vous étiez justement un des proches d'Antoine Miyachi, donc de ceux qui voulaient la chute de Nicolas Grinsky. Que lui reprochiez-vous exactement? Pourquoi souhaitiez-vous tant son départ?
D'abord, on disait qu'il n'était pas nationaliste, puisque c'est les nationalistes qui étaient au pouvoir et qui ont été renversés par l'armée. On reprochait à Grinsky d'être sous l'autorité, bien sous des Français. Voilà. C'est surtout sa tendance et ses accointances avec les Français qui faisaient que la population, en ce moment-là, nationaliste, n'acceptait plus Grinsky.
Voulez Frititi, un des compagnons d'Étienne Yadema.
Avec Grinsky et Miyachi, son vice-président, l'atmosphère devenait invivable. L'insécurité, etc. Donc, Grinsky qui est président, s'il quitte, son vice-président va le suivre. Donc, il y a ça aussi. Parce que l'atmosphère devenait invivable.
La crise éclate véritablement le 17 novembre 1966. Alors que le président Grinsky est en voyage en France, le vice-président Miyachi utilise l'article 24 de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs en cas d'absence du président pour révoquer son dauphin supposé, Mama Fousseni, le ministre de l'Intérieur, dont les enquêtes tendaient à soupçonner Antoine Miyachi d'être le principal instigateur des tracts qui circulaient à Lomé. Pour manifester leur soutien à Fousseni, deux autres ministres du gouvernement vont démissionner. Grinsky, qui ne peut sanctionner Miyachi, puisqu'il est lui aussi une personne constitutionnelle, fait adopter un amendement tendant à supprimer le poste de vice-président. C'est la crise ouverte. Le président Yadema, qui en tant que chef d'état-major servait de médiateur entre les deux hommes, nous raconte plusieurs décennies après les circonstances et les faits.
Miyachi voulait absolument obtenir une crise. Il a passé par un certain nombre de ministres, deux ministres précisément, à démissionner du gouvernement de Nicolas Grinsky pour ouvrir une crise. Parce que lui, étant élu, n'est-ce pas, sur la même liste constitutionnelle que le président Grinsky, donc il ne peut pas se retirer. Ces deux ministres avaient effectivement rendu leur démission. Le président Grinsky m'a appelé, il me dit que voilà, il y a deux ministres qui ont donné leur démission. Et lui, il a précipité les événements. Comme il n'avait pas son vice-président, qui depuis là a pris ses distances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un conseil ministériel extraordinaire où il a démis tout le monde par décret présidentiel. Il a dissous le gouvernement en vue de réformer, n'est-ce pas, un autre gouvernement. L'opposition a profité de ce vide à élire, puisqu'ils savaient qu'ils ne vont pas le pouvoir, mais qui sera président. Donc ils ont organisé, n'est-ce pas, entre eux les cadres d'opposition pour désigner, n'est-ce pas, celui qui va remplacer Nicolas Gruevski lorsqu'ils vont prendre de force le pouvoir. Et c'est le chancelier, le grand chancelier actuel, M. Gaston Mouviedor, qui a été élu lundi 21 novembre 1906. Eh bien, Mouviedor est monté au micro, ils ont pris le pouvoir. C'est cette proclamation de prise de pouvoir qui a réveillé, n'est-ce pas,
le Togo. Le 21 novembre 1966, une vingtaine de partisans du Parti Unifié Togolais, le PUT, dont vous faites partie, monsieur le chancelier Haïté Mouviedor, avec Noé Koutoukli et Oswald Ajavon, s'emparent des locaux de la Radio Nationale. Et comme le disait il y a un instant le président Yadema, c'est vous, monsieur Mouviedor, qui lisez la déclaration qui va réveiller les Togolais ce matin-là. Quel en était le contenu exactement?
La déclaration qui a été faite le 21 novembre au matin à la radio était d'abord une déclaration pour alerter les militants du CUT de descendre dans les rues pour la manifestation. Les militants avaient exigé qu'on leur donne un signe pour qu'ils puissent descendre dans les rues pour ces affaires. Et dans le contenu de la déclaration condamnait Gruevski et condamnait le régime de Gruevski. Sans parler de Miyachi et tout ça là, mais comme les préparatifs pour la manifestation étaient faits en partie avec Miyachi, donc on n'a pas voulu égratigner Miyachi dans cette affaire-là.
Ce 21 novembre 1966, donc, une vingtaine de partisans du Parti Unifié Togolais, le PUT, dont fait partie M. Mouviedor, Koutouklou et Oswald Ajavon, s'emparent des locaux de la Radio Nationale et prononcent un discours annonçant le renversement du régime. Ce jour-là, près de 5000 manifestants vont descendre dans les rues en scandant des slogans hostiles au président Gruevski. Les mutins vont assurer la population qu'ils ont l'appui de l'armée, ce qui signifie qu'en réalité, ils ne risquent rien. Voici la question que nous posions à ce sujet au président Gnassingbé Eyadema. Monsieur le Président, il a très souvent été dit et écrit qu'au début de la mutinerie, l'armée dont vous étiez le chef d'état-major soutenait ce coup d'état et que ce n'est qu'après votre ultime rencontre avec le président Gruevski que vous avez changé de position. Que répondez-vous à cela? L'armée était-elle au courant? L'armée soutenait-elle au départ ce groupe de mutins? Si oui, pourquoi finalement a-t-elle changé d'avis?
Nous n'étions pas au courant. Personne n'est au courant. Il dit l'armée est avec eux. Mais en tant que chef d'état-major, personne n'avait pris contact avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi. Nous avons pris, n'est-ce pas, nous avons occupé les points stratégiques, et y compris la radio. On a pris la bande et on l'a amenée. Et au même moment, les gens sont descendus dans la rue en chantant, demandant au président Gruevski de démissionner. Alors, quand j'ai pris toutes les dispositions en tant que chef d'état-major, j'ai mis, n'est-ce pas, l'armée en alerte et je suis allé avec deux personnes pour voir le président Gruevski, qui sa maison était encerclée par les manifestants, en lui demandant de démissionner. Et je dis, bon, il n'a qu'à faire une déclaration, parce que nous, l'armée est pour la légalité. Il n'a qu'à faire une déclaration pour dire qu'il avait la situation en main. C'est ce qu'il a fait. Et pendant ce temps, il y avait les émeutes. Les gens s'entretuaient au marché. C'était, n'est-ce pas, une division nord-sud, l'est, l'ouest, etc. Donc il a fait la déclaration. Et après, nous avons reçu l'ordre de lui de faire disperser. Parce que là, l'armée n'était pas intervenue. L'armée était consignée, n'est-ce pas, dans ses casernes. Et donc, lorsque nous avons reçu l'ordre de faire disperser les gens, c'est ce que nous avons fait. Nous avons exécuté l'ordre. On a dispersé les gens. Tout est rentré dans l'ordre. Et lui, il a imposé le couvre-feu.
C'est donc l'armée, ou plus exactement le lieutenant-colonel Eyadema, qui sauve le pouvoir de Gruevski. Du moins, pour cette fois-ci. Mais quel est le marché proposé au chef d'état-major de l'armée en contrepartie de ce soutien? C'est la question que j'avais posée lors de notre entretien au président Gnassingbé Eyadema. celle justement de savoir s'il a négocié un portefeuille dans le gouvernement, puisqu'à ce moment-là, on vit dans un vide juridique total. Voici sa réponse.
Comme il y a un vide politique, il fallait qu'il forme, n'est-ce pas, un nouveau cabinet. Alors, il m'a demandé de rentrer dans le gouvernement pour prendre le portefeuille ministériel. Comme dans ma vie, je n'ai pas choisi de faire de la politique. J'ai choisi le métier des armes. Donc, j'ai refusé. Et il a insisté. Il a même fait intervenir les gens. Le ministre des Affaires étrangères, M. Apedama, qui est venu me voir. M. Maman Fousseni, qui est venu me voir. Pour me demander, n'est-ce pas, d'accepter de prendre le portefeuille. J'ai refusé. Bon. Comme il a insisté, il dit, bon, ben, je vais réfléchir. Je n'ai pas cédé. Après, l'ambassadeur de France au Togo, M. Claude Rostin, a demandé l'audience pour me voir. Je l'ai reçu. Il me dit que c'est De Gaulle qui l'a envoyé auprès de moi, de me dire que dans l'intérêt supérieur de la nation, il faut que j'accepte de rentrer dans le gouvernement pour prendre le portefeuille du ministère de l'Intérieur. Comme on ne dit jamais non au président, au général De Gaulle, on ne refuse rien au général De Gaulle, qui me connaissait avant, j'ai dit que je vais réfléchir. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais accepté de rentrer dans le gouvernement parce que le pouvoir, la politique, j'avais dit que je ne ferai jamais de la politique. C'est pourquoi j'ai choisi le métier des armes.
Une fois le coup d'État repoussé, le président Gruevski va donc s'adresser à la population togolaise. Il minimise l'importance du mouvement. Dans l'interview qu'il accorde à la presse quelques jours plus tard, il refuse de parler de sa discorde profonde avec son vice-président.
Monsieur le Président, quelle signification pouvez-vous donner aux manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Lomé ?
Il n'y a pas d'autre signification que de dire que ces manifestations résultent de la menée subversive de certains adversaires politiques. C'est un complot ourdi pendant que je me trouvais en Europe pendant 3 semaines. Ce sont ceux qui se disent révolutionnaires, intransigeants, qui ne veulent pas participer à la politique d'union et de réconciliation nationale. Ce sont les fauteurs de troubles qui ont mené l'action. Vous avez pu constater vous-même qu'en moins de quelques heures, le calme est revenu.
Monsieur le Président, une crise ouverte entre le vice-président M. Meyati et le ministre de l'Intérieur, M. Mafousseni Mama, a été évoquée par vous-même dans votre allocution radio-diffusée de dimanche dernier. Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements sur ce différend ?
En effet, il y a eu un malentendu fâcheux entre le vice-président, M. Meyati, et le ministre de l'Intérieur, M. Mafousseni. Mais cela arrive un peu partout. Même dans un corps, eh bien, il y a des organismes qui ne sont pas toujours en harmonie.
Mais si le coup d'État est écarté, et si selon toute vraisemblance, le président Nicolas Gruevski bénéficie d'un certain appui de l'armée, la crise n'est pas pour autant désamorcée. Le pouvoir du chef de l'État reste très fragile et les heures qui vont suivre vont être très difficiles à vivre pour lui. Il faut dire que les auteurs de la tentative n'ont pas dit leur dernier mot. Les partisans de l'ancien président Silvanus Olympio, qui veulent récupérer le pouvoir et venger par la même occasion la mort de leur leader, et ceux d'Antoine Meyati, qui souhaitent en finir avec le chef de l'État pour prendre sa place, mais pour l'instant, l'armée veille. Le lieutenant-colonel Étienne Eyadema a toutes les cartes en main pour faire basculer le pouvoir d'un côté comme de l'autre. Ne risque-t-il pas d'être le troisième larron de la fable de La Fontaine qui saisit Maître Ali Bouron ? Nous le saurons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'avais dit que je ne ferai jamais de la politique. C'est pourquoi j'ai choisi le métier des armes.
Parti de son Karan natal pour rejoindre l'armée française, où il a été recruté comme soldat, principalement en raison de son physique de baroudeur, de lutteur traditionnel, Étienne Eyadema, après avoir servi dans la coloniale jusqu'à l'accession de son pays à l'indépendance, est parvenu en quelque temps à passer du grade de sergent-chef à lieutenant-colonel. Mieux, en cette fin d'année 1966, où le Togo est à nouveau agité, secoué par de vives tensions politiques, il est le chef d'état-major de l'armée. C'est donc lui qui sert de médiateur entre les deux chefs de l'exécutif qui s'opposent, Nicolas Gruneski, le président, et Antoine Meachi, le vice-président. Suite de notre série consacrée à Gnassingbé et Eyadema, qui pendant près de 40 ans a régné sur le Togo. En cette fin d'année 1966, rien ne va plus entre le président Nicolas Gruneski et son vice-président Antoine Meachi. Le second, qui a le sentiment que le partage des rôles après le putsch de 1963, qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio, n'a pas été juste parce qu'il était plus proche des mutins que le chef de l'État, a décidé de devenir calife à la place du calife. Et c'est pour créer une crise ouverte qu'il a révoqué le ministre de l'Intérieur, Mama Fousseni, un proche du président. Une initiative qui va mettre le feu aux poudres, puisque le 21 novembre 1966, une vingtaine de partisans du Parti Unifié Togolais, le PUT, proche de lui, s'emparent des locaux de la Radio Nationale et invitent les populations à descendre dans les rues. Ce jour-là, près de 5000 manifestants sont dans la ville de Lomé, scandant des slogans hostiles à Gruneski. Les mutins vont assurer la population qu'ils ont l'appui de l'armée, ce qui avait dit que derrière ce mouvement, il y avait la main du chef d'état-major des armées. Pourtant, c'est lui, le lieutenant-colonel Étienne Eyadema, qui ce jour même va mettre fin à ce putsch, qui va faire échouer cette tentative de renversement du président. Il rétablit l'ordre constitutionnel. Le président Gruneski garde donc son fauteuil. Étienne Eyadema nous explique les circonstances quelques décennies plus tard.
Comme il y a un vide politique, il fallait qu'il forme, n'est-ce pas, un nouveau cabinet. Alors, il m'a demandé de rentrer dans le gouvernement pour prendre le portefeuille ministériel. Comme dans ma vie, je n'ai pas choisi de faire de la politique. J'ai choisi le métier des armes. Donc j'ai refusé. Je n'ai jamais cédé.
Pourtant, quelques semaines plus tard, le 13 janvier 1967 exactement, c'est le même Étienne Eyadema à la tête de l'armée qui va décider cette fois-ci de prendre le pouvoir, de mettre un terme au règne, au mandat du président Nicolas Gruneski.
Depuis quelques jours, le bruit circulait de façon persistante qu'un événement important allait se produire le 13 janvier au Togo. Dans la nuit d'hier, tout le dispositif avait été mis en place par l'armée. Aujourd'hui, dès 5h GMT, des militaires en treillis avaient occupé la radiodiffusion. Une demi-heure plus tard, Radio Togo commençait normalement ses émissions de la matinée, mais à l'heure des nouvelles brèves, une voix se fit entendre, celle du lieutenant-colonel Étienne Eyadema. Celui-ci annonçait que l'armée avait pris le pouvoir.
Estimant la situation grave et dans le but de défendre l'intégrité de la nation togolaise ainsi que la protection des personnes et des biens, décidons de ce qui suit. Premièrement, l'armée nationale togolaise prend la responsabilité des pouvoirs civils, politiques et militaires sur toute l'étendue du territoire. Deuxièmement, la constitution est suspendue. Troisièmement, l'Assemblée nationale est dissoute. Quatrièmement, toutes les activités politiques des partis sont suspendues. Cinquièmement, un comité de réconciliation nationale sera mis sur pied dans les heures qui suivront et aura pour tâche, dans un délai de 3 mois, de préparer les institutions devant permettre des élections libres et démocratiques à l'issue desquelles l'armée s'engage à se retirer de la scène politique.
Comme en 1963, lors du renversement du président Sylvanus Olympio, c'est encore un 13 janvier qu'Étienne Eyadema s'attaque au pouvoir. Une date qui revêt pour lui un caractère particulier. Un conseil de ses sorciers sans doute. À la question de savoir pourquoi, après avoir sauvé quelques semaines plus tôt le pouvoir de Nicolas Gruneski, il décide finalement ce jour-là de le renverser, voilà ce qu'il nous répondait.
Malgré le court-feu, la situation débordait. Le président a formé son gouvernement en place, il a formulé, malgré la formation du gouvernement, la situation débordait. Les gens ne respectaient pas le couvre-feu. Et après, nous nous sommes dit, si nous ne savons pas faire, nous risquons de déboucher sur une guerre civile. Nous nous sommes réunis, les officiers, pour examiner, analyser, n'est-ce pas, la situation. Et la majorité disait, il faut que le gouvernement cède la place pour 3 mois et prépare d'autres élections libres et démocratiques.
Dans cette situation chaotique donc, le chef d'état-major des armées, Étienne Yadema, se rend chez le président Grunitzky pour lui annoncer sa destitution. Il nous raconte cette situation, cette scène singulière.
Comment cela se passe exactement? Comment arrive-t-on chez un président pour lui annoncer qu'il est démis de ses fonctions?
Je lui ai dit, c'est intéressant que vous puissiez, n'est-ce pas, retourner, n'est-ce pas, aux élections, que le peuple, n'est-ce pas, décide. Parce qu'on ne dirige pas un peuple avec la baïonnette. Alors, le président a convoqué sur place un conseil des ministres extraordinaires. Il m'a donné la parole, j'ai expliqué. Et les certains ministres de bonne foi, ensuite tels que le ministre des Affaires étrangères, M. Apudama, ont dit qu'effectivement la situation est pourrie. Il faut que le président de Minsk, en sa qualité de président de la République, ministre de la Défense, chef des armées, passe la main pour 3 mois pour organiser d'autres élections libres. Voilà ce que nous avions fait.
Le président Nicolas Grunitzky, homme de dialogue, décide de suivre ses instructions ou ses conseils, c'est selon.
Aujourd'hui, pour des considérations diverses, indépendantes de ma volonté, l'armée a cru devoir se charger des hautes fonctions que j'ai assumées jusqu'ici. Aussi, dans l'intérêt supérieur du pays, et toujours pour préserver la paix, et en accord avec moi, le chef d'état-major des forces armées togolaises a accepté d'assumer toutes les responsabilités de l'État. J'ajoute que je parle à tête haute, car pendant 4 ans consécutifs, tout le monde le sait, j'ai servi les intérêts supérieurs du Togo et je m'en félicite.
C'est ainsi, en effet, que le 14 avril 67, le lieutenant-colonel Étienne Yadema devient le chef effectif de l'État togolais. Le président déchu, Nicolas Grunitzky, quant à lui, retourne à sa véritable passion, les travaux publics. Il s'installe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parmi les mouvements qui désiraient son départ et les responsables de l'armée, il faut maintenant choisir qui va gouverner. Surtout que la prise de pouvoir ne fait l'objet d'aucune contestation réelle des différents mouvements politiques. Comment l'expliquez-vous, M. Haïté Mivedor, vous qui étiez avec quelques autres à la tête du mouvement qui avait tenté de renverser Nicolas Grunitzky quelques mois plus tôt?
Évidemment, il n'y a que l'armée en ce moment-là qui était une force organisée. Les partis ne sont pas organisés de façon à user de la violence pour prendre le pouvoir. Non, il n'y a que l'armée qui peut le faire.
On se souvient que le président Gnassingbé Eyadema nous disait un peu plus tôt que la politique ne l'intéressait pas du tout, qu'il ne souhaitait pas en faire et que c'est la raison pour laquelle il avait refusé le poste ministériel que lui proposait Nicolas Grunitzky. Comment se fait-il qu'il se retrouve à la tête de l'État en ce mois de janvier 1967? Voici la réponse qu'il nous a donnée.
Devant une situation, il y avait une persistance. Quand nous avons fait ça au retour, il fallait quelqu'un pour former le gouvernement. Mais il n'y avait personne. Et je ne voulais pas aussi. Je lui ai dit, écoutez, le colonel Gilbert Dadjo a eu des ennuis parce que lui, il a tenté de faire un contre-coup d'État le 8 avril 1963. Le coup a échoué. Quand le coup a échoué, c'était, n'est-ce pas, il faisait ça avec le monsieur Noé Koutoukli. Quand le coup a échoué, ils étaient arrêtés. Les civils étaient arrêtés et Dadjo était en résidence surveillée. Après, ils ont passé au jugement. Bon. Moi, j'ai dit que bon, c'est une affaire civile, ça ne nous regarde pas. Dans ces conditions, si personne d'entre vous ne veut, n'est-ce pas, diriger ce gouvernement provisoire de 3 mois, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais demander à Dadjo, si ça l'intéresse, eh bien, il va former un gouvernement. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé le commandant Chama pour chercher le colonel Dadjo, qui n'était pas avec nous. J'ai dit, bon, voilà, depuis hier, le gouvernement est renversé. Est-ce que ça vous intéresse de former un gouvernement provisoire de 3 mois pour permettre aux civils de préparer les élections libres et démocratiques? Il m'a dit que ça l'intéresse. Et il a formé un gouvernement. Et nous, on soutenait, n'est-ce pas, ce gouvernement. En conseil des ministres, lorsqu'il y avait des problèmes importants, ils m'invitaient. Bon, tout de suite, ces ministres refuse de collaborer avec lui. Tout en, ils sont chez moi en disant ah non, prenez vous-même la place. Et finalement, certains n'est-ce pas les jeunes, certains n'est-ce pas les vieux, certains n'est-ce pas les vieilles qui me sollicitaient. Et je n'avais pas de choix. À un moment donné, où j'acceptais, je restais au pays, où je refusais, je fuyais le pays. Comme je ne voulais pas partir, j'ai accepté et de prendre le pouvoir. Donc, le 14 avril 1967, j'ai pris, n'est-ce pas, le pouvoir en formant un nouveau gouvernement.
Monsieur le Président, vous savez et comprenez que la plupart des gens sur ce point restent très sceptiques et pensent que vous vouliez le pouvoir et que vous l'avez pris au moment opportun. Alors, chancelier Meufdor, vous qui à cette époque aspiriez avec l'opposition à prendre ce pouvoir, est-ce vrai que le président Yadema a été quasiment forcé de prendre le pouvoir? Est-ce que son but n'était pas, dès le départ, de le faire?
Absolument pas prendre le pouvoir. Et en ce moment-là, lui-même avait essayé de discuter avec les siens pour savoir si quelqu'un parmi eux était désireux de devenir président. Mais au niveau de l'état-major, il n'a trouvé aucun militaire pour accepter de prendre le pouvoir. Et c'est finalement, ils sont arrivés à s'entendre sur le cas de Dadjo, qui était l'ancien, le plus élevé dans le grade, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et on lui a demandé d'assurer cette mission-là. Et c'est pour ça qu'on a constitué après le gouvernement d'union de réconciliation pour 3 mois. Bon, le gouvernement ne marchant pas, même nous, les jeunes, sommes partis voir Yadema pour lui demander de venir prendre la responsabilité lui-même que ça ne marche pas du tout. Et c'est en ce moment-là qu'il a accepté de descendre. Et les jeunes ont été obligés de lui demander lui-même de venir prendre le pouvoir. Et c'est ça qui a amené le départ du gouvernement et la prise de pouvoir par les militaires en avril, le 14 avril.
En ce mois d'avril donc, le lutteur traditionnel, le sergent-chef de la coloniale, est désormais le maître, le capitaine à bord du navire Togo. Il est à partir du 15 avril 1967 le président de la République, le chef de gouvernement et ministre de la Défense. Quel parcours! Le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Étienne Yadema, va aussitôt imprimer sa marque. Il décide de ne pas rejoindre le palais présidentiel et de rester au camp où il résidait depuis le putsch de 1963. 10 jours seulement après sa prise de pouvoir, alors qu'il passe en revue les troupes qui lui rendent les honneurs dans la cour de la présidence de la République, un militaire dans les rangs tire sur lui à bout portant. La balle ricoche sur le bloc-notes qu'il tenait contre sa poitrine. Il s'en sort avec une petite blessure. Il conservera cet agenda taché de son sang et le mettra dans un écrin qu'il va précieusement conserver et qu'il présentait à certains de ses hôtes, comme il l'a fait lors de notre entretien. Bloc-note qui va symboliser un peu pour lui à la fois son invulnérabilité, mais également le fait qu'il était protégé par les esprits et que Dieu l'avait vraiment choisi. Et pour montrer sa magnanimité et démontrer qu'il n'était pas le barbare sanguinaire que l'on décrivait, il va inviter ou plutôt faire venir l'auteur du coup de feu qu'il n'a pas fait passer par le peloton d'exécution. Un soldat qui, après la prison, aura selon lui bénéficié de ses largesses et de son soutien. 8 mai 1967, le président Étienne Yadema suspend les partis politiques. Et au cours de la même année, au mois de décembre, il accède au grade de général de division. 4 ans plus tard, c'est-à-dire moins vite que l'ex-chef de la junte nigérienne Saliou, il devient général de brigade et général d'armée en 1976. Connaissant ses limites, conscient du fait qu'il ne peut diriger tout seul, le nouveau président va très vite s'entourer d'hommes compétents, des cadres togolais tant de l'intérieur que de l'extérieur. Il fait revenir au pays un certain nombre d'entre eux, dont vous, M. Edem Kodjo, vous qui allez très rapidement le rejoindre dans son gouvernement. C'est lui qui vous demande de revenir au pays?
C'était tout à fait ça. Et moi-même, j'avais à l'esprit qu'il était temps que je rentre chez moi et que je n'avais pas fait tout ce parcours pour servir dans un autre pays que dans le mien. Et je suis donc rentré sans hésitation.
En tant que collaborateur, est-ce qu'il vous écoutait? Prêtait-il l'oreille à vos suggestions, à vos propositions, ou étiez-vous simplement des exécutants de ce projet?
Pas du tout. Il y a eu dans le parcours de l'homme, et il y a des mains, plusieurs étapes. En tout cas, l'étape que moi j'ai connue, à savoir les débuts, ce n'était pas du tout ça. C'était un homme qui était attentionné, qui écoutait énormément, parce qu'il estimait que son interlocuteur pouvait lui apporter quelque chose. Ensuite, moi, je n'étais pas membre du gouvernement, j'étais secrétaire général du ministère. Il appréciait ma compétence et donc n'hésitait pas souvent à me faire parvenir des dossiers qui, théoriquement, relevaient de la compétence peut-être d'autres ministères même. Il me faisait rédiger des discours que peut-être son cabinet aurait dû rédiger. Donc c'est dire que dès le départ, il avait une certaine appréciation de ma fonction, de mes possibilités et de mes capacités.
Vous voulez Frititi, un de ses principaux collaborateurs à cette période.
Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec lui sans être ministre. J'étais directeur général de la planification, mais j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Mais il y a de même cette force, ce que nous appelons le brevet d'invention. Quand vous faites une suggestion, il y a de même, si vous réfléchissez, si c'est que cette suggestion peut devenir une pensée, il modifie légèrement votre pensée. Et si vous-même, vous êtes intelligent, ce n'est pas la légère modification, l'essentiel, c'est que l'idée passe.
Mais il se l'approprie.
Bien sûr, ce que j'appelle les choses d'invention.
Le brevet d'invention. Le
brevet d'invention.
Pour mieux asseoir son pouvoir, il fonde en 1969 le Rassemblement du peuple togolais, le RPT, qui devient le parti unique. Il en est naturellement le président. Voulez Frititi, l'un de ses collaborateurs.
Il est le président du parti, il est le président de la République, même s'il fait l'administration consultative, c'est-à-dire qu'il avait sa décision, mais il veut sonder les autres, au moins, on a quand même l'occasion de choses. Et moi, personnellement, ce qui nous lie, que ce soit en mal ou en bien, vous voulez être toujours appelé pour dire il y a ceci, ceci, vous voulez, s'explique. Personnellement.
Pour créer son parti, il va s'entourer des meilleurs juristes et politologues. Encore une fois, il s'appuie sur des cadres compétents comme vous, M. Edem Kodjo.
Et Adema est quelqu'un de complexe. Il n'avait pas le bagage intellectuel que vous signalez, pour reprendre votre expression, mais il avait une vision. Et je crois que l'opposition l'a toujours sous-estimée. Et je me suis évertué à leur dire que vous vous trompez, que le monsieur a des qualités de volonté, de détermination et de lucidité qui lui ont permis de mener sa barque en sachant très bien qu'il était intellectuellement limité et il avait besoin de cadres pour l'aider à faire le travail. Et c'est pour ça qu'il a pris appui sur des cadres compétents qui, eux aussi, voyaient avant tout l'intérêt du pays. Comment faire en sorte que le Togo aille mieux et qui ont pensé que, bon, cette voie-là qui a été indiquée était peut-être arpentable, quitte à ce qu'on en voit les résultats. Donc il n'y avait aucun complexe dans cette affaire au départ. C'était de la bonne volonté et même du désintéressement total. Je peux vous dire avec combien nous avons fait le premier congrès constitutif du parti. Vous allez rire. Vous dire que nous étions totalement désintéressés. On ne cherchait que l'intérêt du Togo. Bon, l'histoire est l'histoire. Après, il y a eu des travers, il y a eu des dérives.
Des travers et des dérives, il va y en avoir effectivement quand nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Niasigbe et Yadema. Il va également y avoir des réalisations, mais également des événements tragiques. C'est pourquoi Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique.
Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr.
Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Tous les cinémas du monde.